bien souvent on met né, le, la date, l'heure, et ensuite il y a un autre un peu plus bas, il y a la date du décès. C'est-à-dire, il y a un jour, la Bible nous dit qu'il y a un jour qu'on doit venir au monde, et un jour qu'on doit quitter ce monde. Et pour beaucoup, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi, il vient un jugement auquel nous tous, même en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rendre compte de toute parole qui est sortie de notre bouche depuis qu'on est enfant de Dieu, et qu'on n'a pas eu la possibilité, ou du moins on ne s'est pas permis, on n'a pas pris le temps de s'arrêter pour demander pardon au Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, c'est un jour que Dieu rajoute à notre vie pour que nous puissions faire quoi ? Faire des progrès. Que nous puissions réfléchir, prendre le temps de ne pas laisser ce qui s'est passé hier s'accumuler avec ce qui va se passer aujourd'hui, parce que la Bible dit « à chaque jour suffit sa peine ». C'est-à-dire, nous ne savons pas aujourd'hui, peut-être que certains au milieu de nous portent quelque chose, ont une peine dans le cœur, ont un souci, et ce souci est là depuis un moment, alors ils le traînent jour après jour, mais je voudrais que ce matin, avec la grâce de Dieu, que le Seigneur Jésus permette que ce fardeau, vous le déposez, vous vous déchargez. C'est facile à dire quand on est là, mais à le faire de manière concrète, c'est pas évident. Mais c'est un acte de foi. Vous le portez, ce fardeau, depuis un moment, et là, ce matin, Dieu veut que vous vous déchargez de ce fardeau sur lui. Et que vous dites au Seigneur, « Je refuse que pendant que je suis dans ta sainte présence, cette chose vient, ou l'adversaire utilise cette chose pour me distraire ou me troubler. Je ne veux pas de cela. » Et à partir de ce moment-là, mes bien-aimés frères et sœurs, vous verrez que ce fardeau que vous mettez devant Dieu, que vous vous déchargez sur lui, eh ben Dieu va s'en charger. Le Seigneur va s'en occuper. Et vous repartirez de ce lieu beaucoup plus léger, légère que vous êtes rentré ce matin dans cette salle. Vous voulez qu'on prie une minute, c'est pas grand-chose, et je ne pense pas que ma prière fera une minute, mais on va fermer les yeux et on va parler à notre Père. Notre Père céleste et notre Dieu, dans le précieux nom et merveilleux nom du Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi. Tu nous as accordé ce souffle de vie à nouveau pour que nous puissions voir le soleil, puissions respirer le mouvement et l'être. Tout cela vient de toi. Et c'est une grâce, vraiment une grâce que tu nous accordes, de nous laisser encore sur cette terre parce que tu sais dans nos vies qu'il y a certainement des progrès encore à faire. Alors nous nous exposons à ta grâce, pour que par la puissance du Saint-Esprit, tu opères, tu œuvres, pour que ce que tu as commencé le jour où nous t'avons donné notre vie, tu puisses le poursuivre et l'amener à son accomplissement de manière merveilleuse. Nous louons ton nom ce matin et nous refusons que quoi que ce soit, et même qui que ce soit, vienne troubler ce temps que nous avons consacré à toi et à Jésus-Christ ton Fils. Nous voulons que nos cœurs soient préoccupés par toi, nos pensées soient sur toi, et que rien puisse venir nous troubler. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, et nous disons Amen. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. Alors, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler sur le sang du Seigneur Jésus, le sang, de manière générale. Et vous savez que quelquefois, pour connaître, dans le sang révèle notre ADN, on va dire, le sang va parler pour que le médecin, le laboratoire, les gens qui font les analyses, puissent connaître vraiment qui nous sommes et le contenu de si nous sommes en bonne santé ou pas. Et vous savez que c'était important pour Dieu et pour Jésus de donner sa vie. C'était important pour lui que le sang puisse couler. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y avait pas moyen d'avoir le pardon de nos péchés. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a donné sa vie et que son sang a coulé pour que nous puissions justement avoir le pardon, la rédemption, le rachat, la rémission. Tous ces termes révèlent derrière ça la valeur du sang de Jésus. Et nous allons prendre déjà pour entrer un texte. Cela se trouve dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Faisons cette première lecture pour bien nous montrer, nous situer bien que le sang de Jésus est le sang le plus précieux au monde. Et ce sang-là n'est pas le même que le sang qui coule dans nos veines, puisqu'il a fallu une rencontre entre notre père et notre maman. Vous êtes d'accord? Mais Joseph n'a jamais eu de contact avec Marie. On est d'accord? C'est le Saint-Esprit qui est venu sur cette jeune femme et elle devint enceinte. L'enfant qu'elle portait, c'était le Fils de Dieu. Non pas le fils d'un homme Joseph ou d'un homme quelconque, mais le Fils de Dieu. Alors ça veut dire que le sang qui coulait dans les veines de Jésus, c'est un sang divin. C'est pour cela que l'adversaire s'est toujours opposé pour que Jésus n'aille pas à la croix. Jusqu'au bout, il a utilisé ceux qui étaient plus proches de Jésus pour l'empêcher d'aller jusqu'à Jérusalem. Ils se sont opposés, mais la Bible nous dit que Jésus a dressé sa face contre Jérusalem et il a été jusque là-bas. Pourquoi ? Son objectif, c'était d'aller à la croix du calvaire. Est-ce suicidaire comme attitude ? Non. Jésus, Dieu, voyait derrière l'œuvre de Jésus à la croix nos âmes, l'âme de tous ceux et celles qui nous ont précédés, qui se sont endormis depuis des siècles, depuis des années. Et ceux qui viendront après nous, Dieu voyait derrière ça, proposer à l'homme, à l'humanité, une solution pour le salut de l'humanité. Et le salut de l'humanité s'est joué à Golgotha. Jésus ne s'est jamais opposé. Ça s'est joué à Golgotha, mais ça s'est joué principalement à Gethsémané. C'est là que tout s'est passé, et c'est là que Jésus s'est soumis totalement à la volonté de son Père. C'était qu'il aille à la croix, c'était qu'il boive cette coupe amère, remplie de nos péchés. Et c'est à Gethsémané que tout s'est joué. Mais béni soit Dieu que Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite au Père. Alléluia. Et derrière cette volonté de Jésus, derrière la volonté de Dieu, il y avait la soumission du Seigneur Jésus à la volonté de son Père. Et faisons cette première lecture, je reviens dessus. Hébreux chapitre 1er. Vous l'avez ? Les pages sont en train de se tourner. Hébreux, chapitre 1er. Voilà ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Il dit ceci, « Après avoir autrefois, écoutez bien, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par qui ? Les prophètes. Voilà que maintenant, Dieu a dit, stop. » J'ai parlé par la bouche d'hommes que j'ai choisis, que j'ai appelés, on les appelle les prophètes. Voilà que maintenant, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, les temps de la fin, les temps de la dispensation de la grâce, auquel la porte de la grâce est en train de se fermer tout doucement, Dieu a parlé. Alléluia. Dieu a parlé et vous verrez que Dieu a parlé par la bouche des prophètes, c'était des hommes comme vous et moi, mais c'était des hommes pécheurs. Mais Jésus-Christ, la différence c'est que Dieu a parlé par sa bouche, mais à travers sa bouche, cet homme était sans péché. Dites Amen. Sans péché. C'est-à-dire quand nous ouvrons la bouche, toi et moi, mon frère, ma sœur, c'est une bouche, c'est une langue qui peut louer Dieu aujourd'hui, là, et qui dans quelques heures avant minuit peut aussi dire des choses mauvaises. Mais Jésus, le matin jusqu'au soir, de sa bouche ne sortait aucune parole mauvaise. Alors vous comprenez bien que quand cet homme qui a écrit l'Épître aux Hébreux dit ceci, Dieu, dans ces derniers temps, nous a fait la grâce de nous parler par qui ? Par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Quand Jésus est revenu, quand Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit ceci, voilà, voici, j'ai reçu, tout pouvoir m'a été donné, où ? Dans les cieux et sur toute la terre. Voilà cet être extraordinaire qui est revenu de la mort et qui dit à ses disciples, tout pouvoir, non pas une partie, mais Dieu lui a légué tout pouvoir. Pouvoir de nous sécuriser, pouvoir de faire ce qu'il veut, non seulement dans les cieux, tout en étant soumis au Père, mais aussi sur la terre. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez que Jésus a tout pouvoir sur la terre ? Pouvoir de changer le cours des choses ? Pouvoir d'arrêter le temps ? Alléluia ! Pouvoir de guérir ? Il a reçu tout, il n'y a rien qui lui soit impossible. D'où le fait que l'Écriture dit ceci aussi, que rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit en qui ? En celui qui a reçu tout pouvoir, bien sûr. Et en croyant en celui qui a reçu tout pouvoir, rien n'est impossible. On le chante lors de les évangélisations, rien n'est impossible à Dieu. Il est le même, il ne change pas. Et c'est vrai, rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu, dans ces derniers temps, nous dit la Bible, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. Vous voyez, cet homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est par lui aussi que Dieu a créé le monde. Christ, sans être dans un corps humain, il était Dieu, là-haut dans le ciel. Et je crois bien que c'est dans Proverbes chapitre 8, il nous est présenté cette personne mystérieuse dont... Pendant que l'Éternel créait le monde, les astres, etc., la terre, lui, il était là. Qui ? Jésus-Christ. Il ne portait pas encore le nom de Jésus, mais il existait déjà en tant que Dieu. Et cet être-là, d'où le fait que je vous disais tout à l'heure, le sang qui coule dans ses veines, ce n'est pas un sang qui vient d'un homme quelconque, c'est un sang divin. Et c'est pour cela que la Bible précise bien que nous avons, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que nous avons été rachetés, mais par le précieux sang. Ce sang-là est précieux, mes bien-aimés.
Et c'est pour cela que cette valeur, la valeur du sang de Jésus, nous allons peut-être le voir dans le cours de ce moment, eh bien, le sang de Jésus a une valeur inestimable. Et quand l'adversaire, vous avez remarqué que dans Exode, quand Dieu a dit à Moïse qu'il fallait tuer un agneau et qu'il fallait mettre le sang sur les linteaux et les poteaux des maisons où habitaient les Juifs. Ceux qui étaient à l'extérieur de la maison, ils n'avaient aucune protection. La mort les frappait. Mais ceux qui étaient dans les maisons où l'agneau avait été immolé, sacrifié, eh bien, ils étaient sous la protection. Ils étaient sous la protection. La mort ne rentrait pas dans les maisons où il y avait le sang. Pourquoi ? Parce que le sang de cette bête, cet agneau, avait été répandu. Mais bien aimé, la Bible dit ceci, que par lui, par qui ? Par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Lui, Jésus, il est le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, selon la loi, avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu, une fois seulement par an. Et quand il y rentrait avec le sang d'une bête. Mais autant pour le peuple que pour lui. Parce que ce n'était qu'un homme. Mais la Bible nous dit que cet homme-là devait faire ça continuellement, une fois par an. Le sacrificateur rentrait dans le lieu saint. Mais le souverain sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus, quand il est mort à la croix et que Dieu l'a ressuscité, il s'est présenté dans ce lieu très saint, dans la présence même de Dieu, avec quoi ? Avec son propre sang. Il n'est pas rentré avec le sang d'un homme ou de quelqu'un d'autre, d'une bête, mais avec son propre sang il est rentré. Oh, combien le sang de Jésus est précieux ! Et il a fait l'aspersion, comme Moïse, Dieu le lui avait dit. Tu viens, Moïse a fait avec l'hysope, il faisait ça, il aspergeait les ustensiles, tout ce qui était là dans la présence de Dieu. Et Jésus, notre Sauveur, quand il est rentré, pareil, il est rentré, et la Bible dit ceci, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, Caïn, fils aîné d'Adam et d'Ève, a tué son petit frère Abel. Il a commis le crime et il a voulu se cacher derrière ça une fausse. Il a voulu se dissimuler et Dieu était obligé de l'interpeller. Caïn, le sang de ton frère Abel crie. Et le sang d'Abel criait quoi ? Justice, vengeance, mais le sang de Jésus, mes bien-aimés, ce n'est pas un sang impur, c'est un sang qui est pur. Et ce sang-là, si le sang aujourd'hui qui coule, quand il y a le sang, il y a un meurtre, il y a un crime qui est commis, que se passe-t-il ? La famille crie justice et quelquefois vengeance, ils sortent dans les rues. Regardez ce qui se passe en Palestine. Il y a des morts, alors il faut tuer. On rend œil pour œil, dent pour dent. Mais nous sommes rentrés dans une période de grâce, nous enfants de Dieu. Le sang de Jésus crie quoi ? Miséricorde, grâce, compassion, patience. C'est tout, le sang de Jésus parle en notre faveur, constamment, jour et nuit. Ce sang parle en notre faveur. Pourquoi ? Contre ceux qui nous veulent du mal, contre la sorcellerie, contre la médisance, contre l'enchantement, contre toutes ces choses que Satan veut nous mettre sur notre chemin. Le sang de Jésus parle en notre faveur, mes bien-aimés. Et si nous en sommes conscients ce matin, eh bien nous allons réaliser que nous n'avons rien à craindre. Nous sommes en sécurité. Ce n'est pas un homme quelconque qui est rentré dans le lieu très saint, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Dieu dit ceci, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte, ou on pourrait dire la photocopie, l'empreinte de sa personne, et soutenant, vous avez vu encore toute chose qui revient, et soutenant toute chose par quoi ? Par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Non pas dans les lieux hauts, mais dans les lieux très hauts. La Bible dit que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé au plus haut des cieux. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, celui que nous servons et que nous professons, que nous confessons jour après jour, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une méconnaissance de cette personne. Pourquoi ? Parce que nous sommes occupés à nos affaires la plupart du temps, et nous ne prenons pas suffisamment de temps pour méditer, plonger nos regards dans les choses qui sont dans ce livre pour mieux connaître qui est cette personne qui nous a appelés au salut et à le servir. Si nous connaissons cette personne, si avec le temps nous cherchons à mieux le connaître, vous verrez que nous traverserons les choses qui vont se passer dans ce monde avec une paix, une tranquillité qui est surnaturelle. Mais si nous négligeons cela, nous allons être troublés exactement comme ceux du monde qui sont troublés. La paix que Dieu nous avait donnée au début sera une paix qui aura diminué et qui sera troublée avec le temps. Mais si nous nous entretenons constamment, nous plongeons, nous cherchons à réaliser mais quelle est la position, quelle est la valeur de cet être qui s'appelle Jésus-Christ, quelle est la valeur de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, quelle est la valeur de son sang, nous serons tranquilles, nous serons dans le calme, dans la confiance, dans le repos. Mais est-ce que nous le voulons véritablement, ce repos ? Ce repos n'est pas magique. Ce repos nous est donné à condition que nous demeurons dans ces choses et que nous la méditons jour et nuit, que nous mettons beaucoup de choses de côté pour dire à Dieu, nous voulons encore te connaître, nous te connaissons depuis des années, mais nous voulons découvrir encore ce diamant, cette perle précieuse qu'est Jésus-Christ, que nous connaissons encore si peu. Et regardez avec moi, prenez avec moi s'il vous plaît, dans Hébreux, nous avons vu, Dieu a parlé dans les derniers temps par la bouche de son Fils Jésus-Christ. On est bien d'accord avec ça ? Bon. Et avant de prendre Hébreux 12, voyez avec moi dans Hébreux chapitre 2, et regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 7. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps, le temps de sa mission sur la terre. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Dieu a vraiment voulu que Jésus passe par ce chemin. Et il dit, en dessous des anges. Hébreux chapitre 2, j'entends que ça parle. Et au verset 7, est-ce que vous l'avez trouvé? Bon, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toute chose où? Sous ses pieds. Voilà l'être que vous connaissez, que vous chérissez. Voilà son pouvoir. Dieu, Jésus a dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur toute la terre. Tu as mis toute chose sous ses pieds. Voilà l'être avec qui nous marchons jour après jour. C'est un être qui est ses pieds, en dessous de ses pieds, il y a les puissances des ténèbres. Dis amen, mon frère et ma sœur. En dessous de ses pieds, il y a les problèmes qui te tracassent l'esprit et le cœur. C'est en dessous de ses pieds. Et quand tu demeures en lui, tes pieds aussi sont au-dessus de ces choses. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant, encore, vous voyez que chapitre 1er, toutes choses, chapitre 2, toutes choses, il dit, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien, écoute bien ceci, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût, mais bien aimé, c'est Jésus dont il est question ici. Et ça produit en moi quelque chose. Il peut y avoir une montagne de difficultés devant moi. Quand je lis cela, ça me donne une force, mais qui me donne de même de prendre la montagne et de le jeter en disant « Sors de là au nom de Jésus ». Pourquoi ? Parce que lui, Jésus, c'est à lui que le Père a soumis toutes choses. Autrefois, Dieu a parlé par la bouche des prophètes qui étaient des hommes pécheurs comme vous et moi, graciés aujourd'hui. Mais dans les derniers temps, dans les derniers jours, Dieu a parlé par la bouche. Et cette bouche, c'est une bouche qui est pure. Rien de mauvais n'est sorti, n'a franchi les lèvres, ni la bouche n'est sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Est-ce que vous avez bien compris, mes bien-aimés? Maintenant, nous pouvons aller un peu plus loin, dans Hébreux, toujours. Hébreux chapitre 4, et à partir du verset 14, regardez ce que dit le Seigneur. Ainsi, nous parlons de notre Sauveur Jésus-Christ, à qui Dieu a donné tout pouvoir, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Ainsi, puisque nous l'avons, un grand, non pas un petit, mais un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, notre sauveur, ce grand souverain sacrificateur, il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Il nous dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi il le dit? Parce que beaucoup pensent que Jésus était un homme comme vous et moi. C'était un pécheur. C'était un homme qui n'était pas parfait. Mais nous croyons à ce que dit la Bible, Jésus, c'est l'agneau parfait. C'est la pureté même. C'est la sainteté même. Il n'y a point de défaut en lui. Tout ce qui sortait de lui, tout ce qui émanait de lui, c'est de la pureté. Et la sainteté a marché sur la terre des hommes et a fait face
au péché, à Satan, à la mort, il est toujours sorti vainqueur. De sa bouche, rien de mauvais, je le répète. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas, écoutez bien, un souverain sacrificateur. Rappelez-vous, lui, le souverain sacrificateur, selon la loi de Moïse, entrait une fois par an. Mais celui-là, Jésus-Christ, nous avons un grand souverain sacrificateur, dit la Bible. Et il dit au verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à quoi? À nos faiblesses. Celui-là, il compatit. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Il s'est rendu semblable à nous, il s'est identifié à nous. Pourquoi ? Pour mieux nous comprendre, mieux nous soutenir. Lui seul, on peut avoir des frères, des sœurs autour de nous, la famille peut-être, mais qui se trouve là quand personne ne sait ce qui se passe dans notre cœur et dans nos pensées, quand nous avons l'esprit dans l'abattement, qui est là pour nous soutenir ? C'est Jésus-Christ. C'est lui. Le souverain sacrificateur, il dit qu'il ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel qui criait vengeance. Ça veut dire que le sang de Jésus devant Dieu parle en notre faveur. Quand Dieu voit le sang de Jésus, et nous s'est racheté, quand nous venons devant Dieu et que nous disons « Seigneur, je te demande pardon », il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait dans notre âme et dans notre cœur, il y a le pardon de Dieu. Toi, tu peux peut-être ne pas te pardonner parce que tu as été exigeante, exigeant. Pourquoi tu t'en veux d'avoir fait ? Et il y a le sang merveilleux et précieux de Jésus. Et ce sang-là, dès que tu viens et que tu reconnais devant Dieu, tout de suite, tes péchés sont effacés. Le sang que Moïse a aspergé, ce sang-là couvrait le péché. Il ne ôtait pas le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. La différence entre, sous la loi, le sang qui était répandu, ça couvrait, ça cachait. Pour un temps, il fallait que ça soit constamment, constamment, recommencer la même chose. Mais c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus s'est offert une fois pour toutes. C'est-à-dire son sang est suffisant. Et ce sang-là, quand on vient, on demande pardon, c'est fini, effacé. Alors accepte de te pardonner toi et accepte aussi le pardon de Dieu. Et ne te flagelle pas. Ne te culpabilise pas, ne laisse pas Satan te culpabiliser, parce que tu connais pas la valeur du sang de Jésus. C'est pour cette raison qu'il te tient dans la culpabilité encore. Mais ce matin, il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait dans des cœurs, c'est qu'il les libère. Pour qu'ils puissent prendre conscience de la valeur du sang de Jésus. On poursuit. Après, je vais m'arrêter. Puisqu'il y a la Sainte Cène après. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au contraire, il a été tenté comme nous en... Il s'est identifié. Ce à quoi tu es confronté, et que nous pourrions être confrontés dans l'avenir, lui Jésus, la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en... Vous voyez le toute chose qui revient ? Et dans l'Épître aux Hébreux, vous verrez souvent en toute chose. C'est-à-dire, il y a l'accomplissement, il y a comme quelque chose qui rien n'a laissé inachevé. En toute chose. Sans commettre la différence avec nous, quand nous sommes tentés, nous pouvons tomber dans le péché, dans la tentation. Mais avec Jésus, jamais basculer, rien de tout ça.
pour ça que je l'aime, pour ça que je l'adore, parce que c'est l'homme parfait. Et voilà le conseil que cet homme, l'Épître aux Hébreux, nous dit. Il nous dit quoi ? Verset 16. Puisque nous avons en lui un souverain sacrificateur qui est rentré une fois pour toutes et qui y demeure dans la présence même de Dieu, il s'est assis à la droite de Dieu, nous dit l'Écriture. Voilà le conseil que Dieu nous dit et donne à chacun de nous. Et c'est quelque chose que beaucoup certainement négligeons. Nous négligeons de nous approcher de Dieu. Quelquefois, nous passons devant lui. Mais quand tu t'approches de quelqu'un, je m'approche de Loïc, je m'approche de mon frère Henri, je suis là, ils me sentent, ils me voient, je peux leur parler, je peux discuter, je peux les toucher. La Bible nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu. Et en nous approchant de lui, lui s'approchera aussi de nous. Mais prenons le temps de nous approcher de lui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu permet cela pour à nouveau permettre à ses enfants que nous sommes de nous approcher, de prendre le temps, d'y aller, de rentrer. Jésus nous a déjà devancés. Il suffit que nous rentrions là, dans la présence de Dieu. Le lieu très saint nous a été ouvert, le voile du temple s'est déchiré, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de barrières. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de nous approcher pleinement, de jouir pleinement de tout ce qui est là à notre disposition, mes frères et sœurs? Approchons-nous donc. Comment ? Avec légèreté, cette assurance vient du fait que Dieu nous fait comprendre ce que Jésus a accompli et la valeur de son sang. Quand vous avez cette assurance, Satan ne peut pas se permettre de venir là sur tes épaules et chuchoter à tes oreilles en mettant le doute dans ce que tu es en train de dire à Dieu. Il ne peut pas se permettre de le faire. Parce que tu as une assurance, tu es comme une flamme de feu. Il vient, le feu, il a peur de ça. Il s'en écarte. Approchons-nous donc avec assurance. Où ? Du trône de la grâce. Vous voyez, ce trône, c'est un trône où Dieu fait grâce. Dieu ne condamne pas aujourd'hui. La porte de la grâce est encore ouverte. Nous devons nous pencher, nous devons profiter de ce temps pour inviter nos amis, nos familles, nos proches à rentrer par cette porte. Parce que Jésus, Dieu l'a fait asseoir sur le trône de la grâce afin d'obtenir quoi ? Miséricorde. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de sa miséricorde et de trouver grâce. Trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et mon frère, ma sœur, tu dois et nous devons trouver dans ces paroles de l'encouragement, du réconfort, de l'exhortation, quelque chose qui te stimule pour que tu te dises, tiens, il y a un endroit, il y a un lieu où je peux m'approcher. Il y a un endroit où je peux aller me trouver devant la présence de Dieu. Je peux répandre mon âme devant lui. Je peux venir me prosterner, me tenir dans le silence et le contempler avec mon âme et lui dire, oh, que tu es merveilleux. Oh, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour le rachat. Merci pour la rédemption. Merci pour le pardon de nos péchés. On peut le faire, ça. Mais il faut que nous nous approchions de lui. Il faut que nous laissons le Saint-Esprit ouvrir nos yeux et nous donner de contempler cet être extraordinaire qui est Jésus-Christ, que Dieu a souverainement élevé et a fait asseoir à sa droite et a tout mis sous ses pieds, tout pouvoir lui a été donné. Alors, tu peux ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, puisque tout pouvoir t'a été donné,
débloque cette situation. Débloque cela par ici. Fais cela par là. Il peut le faire. À condition que tu places ton assurance et ta confiance en lui. Parce que celui qui doute de ce que Jésus est, et même de ce que Jésus, Dieu lui a donné à travers Jésus-Christ, il ne pourra rien recevoir. Il vivra une vie chrétienne, un peu comme, vous savez, un peu comme ça, à traîner toujours la patte, à dire oui, ça va pas, ça va bien aujourd'hui, mais je sais pas, il est dans un état versatile, un jour ça va, un jour il est comme le temps. Mais un enfant de Dieu que Dieu lui fait la grâce de réaliser, de comprendre ce que Jésus a fait pour lui ou pour elle, mais il est dans une, même si une mur se dresse devant lui, il passe à travers. Un miracle. Comme la fourmi qui passe au-dessus de l'obstacle pour continuer son chemin. Vous dites amen. Et je vais terminer. Deux choses que le sang de Jésus nous procure. Éphésiens chapitre 1er. On quitte l'épître aux Hébreux pour aller dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er. Deux choses que le sang de Jésus nous procure. Verset 7 au verset 6. À la louange de sa gloire, de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Qui est ce bien-aimé ? Jésus. Vous savez que Dieu aime quand on parle de lui et que nous le mettons en avant, Jésus, puisque lui, il l'a élevé, il l'a honoré au-dessus de tout. Eh bien, quand son peuple se rassemble et Dieu voit que son peuple parle de Jésus, mais vraiment le met en avant, oh, ça réjouit son cœur. Ça réjouit le cœur du Père. Parce que nous nous accordons à ce qu'il a fait. Nous disons oui, Seigneur. En effet, c'est à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance. À Jésus-Christ. Et aussi à toi, bien sûr. À la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7 qui nous intéresse. En lui, qui ? Jésus. Nous avons. C'est pas que nous aurons, mais nous avons. C'est un acquis. Nous avons quoi ? La rédemption. Deux choses que Dieu nous donne, nous procure. Le sang de Jésus nous a procuré quoi ? La rédemption. La rédemption. Le rachat de nos péchés, la purification de nos péchés. Nous avons la rédemption par son sang. Voyez que le sang de Jésus est précieux. Nous avons ici la rémission des péchés, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue, verset 8, abondamment sur nous, non pas à petite dose, mais avec abondance. Mon frère, ma sœur, sous l'aspersion du sang de Jésus, il y a une richesse de gloire et de bénédiction pour ta vie. Voyez, moi j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, mais je me retiens. Non, mais par déférence et respect pour vous, pour éviter que vous pensiez que j'ai perdu la tête. Lors de la Pentecôte, on a pensé qu'ils étaient ivres, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand un chrétien est rempli de l'Esprit, il n'est pas reconnu, il est considéré comme fou. Pourquoi ? Parce que quand il est rempli de l'Esprit, ça ne veut pas dire qu'il saute, qu'il gesticule, il fait des cris. Non, il y a la sobriété, mais il y a une joie qui l'anime, mais quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Que le Seigneur nous fasse cette grâce ce matin. Qu'il répande cette assurance par le Saint-Esprit, qu'il réjouisse notre cœur, qu'il n'y a pas de retenue pour lui, que nos cœurs se répandent, que nous nous répandons dans l'adoration, dans la louange devant lui,
dans l'action de grâce, parce qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Et le sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu saint, mais béni soit Dieu, le souverain sacrificateur est rentré de l'autre côté, dans le saint des saints. Nous pouvons rentrer maintenant. Parce que Dieu voit le sang, il dit, ils peuvent rentrer. Amen. Il dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Dieu nous a révélé chose que le monde ne connaît pas. Nous sommes un peuple extraordinaire. Nous sommes des gens à part. Nous sommes un peuple qui est dans ce monde, mais nous sommes un peuple à part. Dieu nous a révélé le mystère. Quel mystère ? Dieu s'est fait homme. Christ est venu sur la terre. Il a donné sa vie. Et derrière cet homme qui s'appelle Jésus-Christ, oui, c'est le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps, voilà les temps qui arrivent, dans les derniers temps, Dieu a parlé par la bouche de Jésus. Et Dieu avait préparé cela sans le conseil de qui que ce soit. Dieu avait préparé, avant que le monde soit, il avait déjà préparé ce moyen à travers Jésus-Christ de venir au secours de l'humanité, de nous racheter. Ce que tu es aujourd'hui, Dieu le savait déjà, c'était déjà écrit. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu vives, parce qu'il veut que tu vives dans la bénédiction. Il veut que tu sois dans la bénédiction. Il veut pas que tu sois là comme ça, timoré, un peu là, timide, comme quelqu'un qui est là, qui n'ose pas. Non, avec assurance, vis pleinement, mon frère, ma sœur. Vis pleinement ta vie avec Jésus. Tu n'as qu'une vie sur terre, vis-la pleinement avec lui. Ce que tu peux profiter là, c'est fini dans le ciel, puisque la Bible nous dit que les dons, tout cela disparaîtront, mais l'amour va demeurer. Mais vis pleinement les choses avec lui. Je termine. Verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en... Voilà ce qu'il a fait Dieu. Quel plan, quelle sagesse, quelle intelligence, quelle connaissance. Dieu, c'est l'être le plus intelligent. C'est l'intelligence même, c'est la sagesse même. Il avait tout prévu de ramener tout cela en la personne de Christ. Tout ce que Dieu permet aujourd'hui dans ce monde, tout converge pour que sa volonté s'accomplisse. Même ce que Satan fait, Dieu le contrôle pour permettre que cela aille. Regardez ce qui se passe en Israël en ce moment. Beaucoup diront, ah oui, il y a des morts, etc. Mais tout cela travaille pour le retour de Jésus. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Dieu n'est pas dépassé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être dépassés par ce qui se fait. Nous devons regarder ces choses en nous disant, tout cela converge pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que il y a les noces de l'agneau. Dieu est en train de tout faire pour préparer son Église que nous sommes, et sur toute la terre, belle. Dieu est en train de nous préparer, nous faire belle, pour ce grand festin, ce mariage, les noces de l'agneau, qui aura lieu. L'épouse de Christ, qui est l'époux, c'est l'Église. Et il y a une rencontre qui doit s'opérer dans le ciel, et il y a un festin, les noces de l'agneau, qui aura lieu, et j'espère que vous y serez. Habillés, coiffés, on n'aura pas besoin de tout ça parce qu'on sera transformés. On n'aura pas besoin de poudre ou de quoi que ce soit, on sera belles pour l'époux qui est Jésus-Christ. Et Dieu est en train de travailler à cela dans l'Église et dans l'Église qui est sur l'Église, son Église, l'épouse de Christ qui est sur la terre. Dieu est en train de la préparer. Et tout ce qui se fait converge à cela. Rien d'autre. C'est à ça que Dieu travaille en ce moment, depuis des siècles, puisqu'il dit ceci, « Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, voyez, et celles qui sont sur la terre. » Dieu travaille à réunir, à ramener toutes choses sous le contrôle et sous le contrôle, l'autorité de Christ. Et il dit ceci au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus, voilà ce que nous sommes, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes héritiers. Tout ce que Dieu donne à Jésus, c'est aussi pour nous. » Est-ce que tu le crois, mon frère ? Moi, je le crois, même si je ne le vis pas encore pleinement, mais dans ma tête et dans mon cœur, je le crois. Que ce qui est à Jésus est à moi. C'est je suis héritier. Et je poursuis. Ayant été prédestiné, voyez, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Vous savez, on le lit là ce matin, mais ça mérite de s'y arrêter, de plonger, de jeûner pour que Dieu nous ouvre l'esprit, que nous comprenions pleinement ce qu'il y a derrière ces mots. Pour que nous ne soyons pas des chrétiens oisifs ou là, à ne pas savoir qui on est, où on va, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qui nous attend. Nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de qui ? De la volonté des hommes ? De sa volonté à lui. Afin que nous servions à la louange, à sa gloire, voilà le but que Dieu poursuit, que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. Il y a encore autre chose, mais je vais m'arrêter pour que nous puissions prendre le repas. Et j'y reviendrai, on y reviendra ensemble si Dieu le permet. Je ne sais pas comment il fera, mais déjà ce que nous partageons ensemble, la parole de Dieu, c'est un stimulant. C'est comme quelque chose qui nous booste, qui nous pousse à aller vers l'avant, à nous projeter. Trop d'enfants de Dieu vivent en deçà, en dessous de ce qui devrait être. Dieu nous a pris, il nous a mis en Christ. Et en Christ, il nous a bénis. C'est pas qu'il va nous bénir, mais il nous a bénis. C'est du concret. C'est pas de l'à peu près avec Dieu. Inclinons notre tête quelques instants. Nous te remercions, Père, notre Père qui est aux cieux. Et nous te remercions parce que nous avons encore l'esprit, encore lent à comprendre. Et il y a tellement de choses que nous avons certainement laissé venir s'installer et qui a enlevé, qui a obstrué
notre esprit, où tu avais le désir de nous instruire ou nous faire connaître, nous révéler ces choses. Nous te prions ce matin pour que tu fasses un miracle. C'est que tu enlèves tout ce qui est là, qui fait bouchon et qui empêche que nous puissions réaliser pleinement ce que Jésus, ton Fils, a accompli, ce que toi, tu as voulu qu'il accomplisse pour toi, mais aussi pour nous, afin de faire de nous des héritiers, même co-héritiers de Christ. Père, s'il te plaît, fais ce miracle. Ouvre-nous l'esprit. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous de connaître, non pas pour faire valoir cette connaissance, mais pour que nous puissions réaliser le privilège que nous avons, qui est de t'appartenir, de connaître et de participer à une telle grâce. Merci pour ta bénédiction sur nous ce matin. Merci pour ta grâce. Nous allons prendre le repas et nous allons nous rappeler ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire. Nous allons prendre, manger son corps. Nous allons boire son sang. Nous allons communier, nous allons rentrer dans cette communion. Alors nous te demandons de nous aider à réaliser ces choses, afin que nous ne le pratiquons pas de manière habituelle. Père, dans le merveilleux et précieux nom du Seigneur Jésus. Amen.